Bon, bonjour et d'abord merci de votre invitation. D'abord parce que je suis toujours très content de trouver des, et il y en a bien sûr, mais de rencontrer des libraires qui aiment les livres. Ça peut paraître paradoxal, mais enfin évident, mais c'est pas toujours le cas. Et puis aussi, merci de m'accueillir dans ce lieu particulièrement habitable, justement. Bon. Et accueillant. Voilà.
L'habitable, de l'inhabitable, et de l'habitation, évidemment aussi de l'habitable, de bon, de l'habitable et de l'habitation, et de l'habitat. Alors, c'est un petit peu le travail que je poursuis depuis pas mal d'années, disons depuis au moins une vingtaine d'années, parce qu'il se trouve que, pas tout à fait par hasard, mais enfin, c'est des aléas de l'existence, j'étais professeur à l'école d'architecture de Paris, Paris-la-Villette. C'était pas tout à fait hasard parce que, bon, je suis de formation philosophique et je trouvais que, parce que d'abord j'avais des amis qui étaient de jeunes architectes, mais plus profondément, je trouvais que la question de l'habitation et, bon, de l'habitat, de la ville, était une question qui concentrait, disons, à l'heure actuelle, mais enfin, ça a toujours été plus ou moins le cas. Mais peut-être plus que jamais, à l'heure actuelle, je dis à l'heure actuelle, c'est dans notre temps, caractérisé, j'anticipe un peu ce que je vais dire, je suis obligé, caractérisé par le fait d'un certain développement du capitalisme. Donc je trouvais que par la question de l'habitation et de l'habiter, et de l'habitat, à la fois on trouvait ce qu'on pouvait faire un petit peu l'analyse transversale de tous les problèmes qui se posent dans notre temps. Et comme je suis, disons, sur la ligne, tu parlais tout à l'heure de Hannah Arendt, je pense que le mot d'ordre que donne Hannah Arendt, qui consiste à dire qu'il faut penser ce qui arrive, moi, je me suis donné comme tâche, disons, comme but, comme intérêt, de penser ce qui arrive par l'intermédiaire, disons, l'instance de l'habiter. Alors, ça, c'est un peu général. Il y a un certain nombre de mes livres qui en parlent plus particulièrement. Et le dernier en date, bon, qui est publié il y a peu de temps, qui s'appelle L'inhabitable capital, sans E. Le capital qui est inhabitable, part de ce constat que j'ai fait, que ça m'étonne que pas plus de gens l'ont fait, maintenant ils commencent à le faire d'ailleurs, c'est que l'origine, enfin, contingente, mais l'origine c'est toujours contingent, de la fameuse crise que nous traversons, dans laquelle nous sommes plongés encore, la crise des subprimes, elle a pour, disons, comme point de départ, ce que vous savez tous, une crise de l'immobilier, mais pas n'importe où et pas dans n'importe quelle circonstance, c'est-à-dire le fait que on essayait de vendre le maximum, enfin, on essayait, les agences immobilières, les banques, essayaient de vendre le maximum de maisons à des populations dont on savait, dont elles savaient, les banques et les agences, que pour l'essentiel, elles, comme on dit, elles n'étaient pas solvables parce qu'elles faisaient partie des couches les plus pauvres de la population américaine et particulièrement ce qu'on appelle les Afro-Américains et ce qu'on appelle les hispaniques, et que c'était eux qui étaient les demandeurs évidemment, les plus pressés d'acquérir une maison. Bon. Et que ces gens qui pensaient acquérir une maison en empruntant, parce qu'il y avait un crédit à des conditions apparemment extrêmement favorables, donc en empruntant, alors qu'ils n'avaient pas l'argent pour rembourser, mais ils escomptaient, ça c'est l'escompte, c'est-à-dire ils escomptaient plus ou moins, en tous les cas on leur faisait croire, et ils y croyaient, ils avaient intérêt, évidemment, ils avaient envie d'y croire, que même s'ils n'avaient pas l'argent pour rembourser, comme la valeur de leur maison d'année en année augmenterait, donc ils la revendraient et donc ils seraient capables de rembourser ce qu'ils avaient emprunté. Bon, donc c'était l'escompte de l'escompte, le crédit du crédit. Et puis, bien entendu, ce mécano s'est écroulé. Et ça a entraîné ce qu'on sait, à savoir la faillite d'un certain nombre de banques et puis la crise générale financière dans laquelle nous sommes et qui n'a pas fini de faire sentir ses effets. Alors, on peut dire, ça s'est passé comme ça, ça aurait pu se passer autrement. Hein, pourquoi c'est justement à propos de l'acquisition d'une maison, d'un habitat, que tout s'est déclenché. Alors, en plus aux États-Unis. Alors, je me suis interrogé sur cette question-là parce que me semble-t-il, ça. Non pas ça mettait en contradiction, mais ça faisait ressortir, disons, la légèreté d'un certain nombre d'idées reçues qui avaient eu cours les 15 dernières années, les 20 dernières années, et peut-être plus encore. Et ça faisait aussi revoir l'idée que les non-américains, nous, par exemple, les Européens, moi-même, nous nous faisions des États-Unis. Alors, pour la plupart des gens qui ne connaissent pas bien les États-Unis, et pour la manière dont on présente les États-Unis, comme vous savez, et Dieu sait si les États-Unis eux-mêmes, par leurs écrivains, leurs cinéastes, leurs musiciens, leurs paroliers, etc., 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 ils ont popularisé cette vision, à savoir que les États-Unis, c'est le pays des grands espaces, Hein, alors, pendant longtemps, des espaces vierges, maintenant, ils sont quand même relativement habités, mais enfin, des grands espaces. C'est le pays de la mobilité, où on se déplace toujours, bon, avec le fameux mythe de la frontière qu'on n'atteint jamais, enfin plus ou moins. Bon. Donc, apparemment, un petit peu non pas le contraire, mais en tous les cas le différent de ce que symbolise plus ou moins la permanence de la maison. C'est-à-dire, une maison, c'est quelque chose dans lequel on se fixe, dans lequel on s'arrête. Et évidemment, comme on dit, d'ailleurs, ça se dit comme ça, qui est immobile, immobilier. Hein? L'immobilier, c'est ce qui n'est pas mobile. Bon, ce qui ne se déplace pas. À part si, vous savez, quand même, les gens qui se déplacent en caravane, et même aux États-Unis, on peut déplacer, maintenant on le fait, bon, et peut-être ça viendra aussi dans nos pays, ça commence à venir un tout petit peu d'ailleurs, on déplace des maisons en les tirant. Mais enfin, c'est quand même pas le mode le plus répandu de l'habitation et de l'habitat. Donc, alors, je me suis posé la question, mais comment se fait-il que dans ce pays, donc, des grands espaces, de la mobilité, du fait que il y a une espèce de mythe encore redit par, puisqu'on a republié dernièrement la première version du fameux livre de Kerouac sur la route, le mythe de la route aux États-Unis. Bon, voilà, on traverse long en large. Alors, comment se fait-il que ça soit justement passé dans ce secteur, disons, je ne dis pas encore lieu, qui est l'immobilier, ce qui n'est pas mobile. Et qu'est-ce que ça peut dire? Pourquoi c'est là où on a vu, où c'est dévoilé d'un certain point de vue, où c'est manifesté, en tous les cas, dévoilé, peut-être le mot est trop fort, mais c'est manifesté clairement les contradictions de la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire à l'âge du capitalisme financier et de la mondialisation marchande. Pourquoi ? C'est précisément dans l'immobilier que se joue la première crise de la mondialisation. Alors, pour comprendre cet événement, hein, parce que c'est quand même un événement, un événement au sens où un événement, c'est quelque chose qui survient, qui était évidemment plus ou moins prévisible, mais enfin, parce qu'il y a un certain nombre de gens depuis un certain temps, un certain nombre de d'économistes, pas beaucoup, mais enfin quelques-uns, et de d'essayistes politiques, etc. Peu d'hommes politiques, bien sûr, mais enfin un certain nombre de gens pensaient que un jour ou l'autre, la situation telle qu'elle se développait surtout depuis les 20 dernières années, bon, symbolisée, on pourrait y revenir dans la discussion, j'espère, plus ou moins par le fait que, après la chute du mur de Berlin, bon, le capitalisme était triomphant, il n'avait plus aucun ennemi, il était devenu totalement dominant sur la terre entière. Donc, on pouvait imaginer qu'un jour ou l'autre, il y aurait une crise. Mais quand même, personne ne pouvait, à part quelques-uns, si quelques-uns l'ont plus ou moins anticipé, mais enfin très peu, que ça se jouerait justement là. Donc, c'est un événement. Un événement, c'est quelque chose qui arrive, et il y a un avant et un après, dans le cours reproductible du temps. Alors, je me suis demandé comment analyser cet événement. Et alors, pour ce faire, eh ben, je pensais que justement, il fallait, bon, ce que je fais encore une fois depuis un certain temps, réinterroger la question de l'habitat, mais plus profondément encore, l'habitation, c'est-à-dire habiter. Qu'est-ce que ça veut dire pour les êtres humains d'habiter? C'est quoi habiter? Alors, ce n'est pas moi le premier qui me pose cette question, bien sûr. Il y a un texte fameux que je pense qu'un certain nombre d'entre vous ici ont dû lire ou ont entendu parler quand même, même s'ils ne l'ont pas lu. Bon, peut-être qu'ils en ont entendu parler. C'est le fameux texte de Heidegger, Bâtir, habiter, penser, qui est un texte que, bon, les étudiants en architecture connaissent plus ou moins, que j'aurais fait lire, mais enfin bon, maintenant, c'est un texte que, quand même qui est relativement connu. Donc, ce texte, il a été écrit en 1900, enfin, il a été d'abord prononcé dans une conférence dans les années 1950 par Heidegger, au moment où, après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, l'Allemagne est dévastée, il faut la reconstruire, et la question, c'est la question de l'habitat. Bon, mais c'est dans toute l'Europe, puisque, bon, comme le dit Virilio, la Deuxième Guerre mondiale, ça a été la destruction des villes, hein, essentiellement ça, par bombardement, évidemment, c'est venu du ciel. Donc, la question qui était essentielle, au moins pendant 15 ans, c'était la question de la reconstruction. C'est-à-dire, de faire en sorte que les gens soient logés. Bon, alors, je ne vais pas refaire toute l'historique, tout le monde le sait, l'abbé Pierre, etc., etc. Bon, la question, c'était la question de l'habitat. Que les gens aient, comme on dit, un toit au-dessus de leur tête. Ils puissent se loger. Alors, se loger, ça veut dire d'abord s'abriter. Hein, s'abriter. Donc, les êtres humains, ils ont besoin de s'abriter. Ils ont besoin de s'abriter. Alors, encore une fois, je n'anticipe pas trop ce que je vais dire après. Bon, enfin, ils ont besoin de s'abriter contre tous les dangers, que ce soit des dangers extérieurs naturels, que ce soit des dangers d'autres, causés par les autres, etc. Bon, mais dans ce fameux texte de Heidegger dit que donc, il prend en compte le fait que la crise, c'est d'abord une crise du logement, c'est la crise de l'habitat. Il n'y a pas assez de logements. Et Dieu sait que cette crise-là, on ne l'a pas du tout maîtrisée encore, hein, en France. Il n'y a pas assez de logements, tout le monde le sait. Donc, bon, déjà ça, le minimum n'est pas résolu. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de logements. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la capacité, tous les êtres humains n'ont pas la capacité de s'abriter. Mais Heidegger dit que, plus fondamentalement encore que la question de l'habitat, la question de la crise de l'habitat, c'est la conséquence, pour lui. Alors c'est une thèse qui a été extrêmement critiquée, qui a été même trouvée scandaleuse, en disant que c'était une thèse métaphysique et que ça ne rendait pas compte de la réalité, que c'était bien effectivement des philosophes qui pouvaient se dire ça, qui ne se coltinaient pas avec le concret, etc. Bon, enfin bref, pour Heidegger, la crise de l'habitat, c'était le symptôme et la conséquence de quelque chose de plus profond, beaucoup plus profond, la crise de l'habiter et de l'habitation. Ce texte que j'ai beaucoup travaillé, etc., au départ, oui, je trouvais ça un texte, bon, entre guillemets, un petit peu, je dirais pas idéaliste, mais enfin, je trouvais un petit peu au-dessus des choses concrètes. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai travaillé la question de l'habitat, de la ville, des banlieues, plus je me suis rendu compte de la justesse, de la profondeur de cette méditation de Heidegger sur l'habité. Alors, qu'est-ce que signale, me semble-t-il, qu'est-ce que montre, qu'est-ce que manifeste la crise de l'habitat, la crise de subprime, au niveau de la crise du système capitaliste, et que dévoile-t-il de ce que produit d'une manière structurelle, indépendamment des intentions, des intentions et des politiques plus ou moins cohérentes, des dirigeants, de la classe dirigeante, de la classe possédante. En admettant même qu'ils aient des bonnes intentions, ce qui est tout à fait l'ordonné beaucoup. Bon, enfin, admettons même qu'ils aient des bonnes intentions. Admettons qu'ils soient de bonne volonté, comme on dit. Bien. Qu'est-ce que dévoile, qu'est-ce que montre la crise subprime? À mon avis, d'abord, sur la question précise du lieu où ça s'est passé, et de l'organisation générale des forces sociales économique et politique aux États-Unis. Donc je redis ce que j'ai dit au départ. L'essentiel des gens qui étaient touchés par les subprimes, l'essentiel, mais ça ne veut pas dire que c'était tous, il y en avait d'autres aussi, mais enfin, beaucoup de ceux qui ont été touchés et qui ont été les victimes de cette escroquerie, c'est des gens, disons, issus de la population afro-américaine et de la population hispanique. Bon, vous savez qu'aux États-Unis, qui est le pays de tous les immigrants du monde entier, les États-Unis sont une certaine forme de démocratie qui fonctionne avec une constitution non écrite, plus ou moins. Gravé au Capitole de Washington, et puis avec un système de pouvoir avec fédéral, les États, les différents États, etc., etc. Et puis des communautés. Or, comme vous savez aussi, les États-Unis ont fonctionné pendant jusqu'il y a un siècle et demi. En tous les cas, surtout le sud des États-Unis, mais enfin, d'une manière générale, avant l'abolition de l'esclavage, toute une partie des États-Unis a été, fonctionnée avec l'esclavage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'esclavage ? Qu'est-ce que c'est qu'être esclave ? Bon, être esclave, évidemment, c'est de ne pas être libre. Mais très concrètement, ça veut dire quoi ? Être esclave, être libre, ça se joue d'abord, fondamentalement, qui est propriétaire de mon corps ? Habeas corpus. Bon, l'esclave, c'est celui qui n'est pas propriétaire de son corps. C'est le maître qui est propriétaire de son corps. Et l'homme libre, il a d'abord la libre propriété de son corps. En principe. Enfin, les principes, c'est très important. Donc, avoir ou ne pas avoir la propriété de son corps, d'abord, c'est la ligne de partage absolue entre la liberté et l'esclavage. C'est quelque chose de fondamental. Et c'est d'autant plus fondamental que dans la tradition anglo-saxonne, dans la tradition de la philosophie anglaise, qui fonde dans les linéaments de la démocratie moderne, si on parle de démocratie moderne, pour la différencier de ce qu'on a appelé la démocratie antique du temps de la cité grecque à Athènes, par exemple, ce qui se met en place à partir du XVIIe, XVIIIe, et après la Révolution française, etc., ce qui se met en place dans les pays européens sous le terme de l'aspiration démocratique, de la liberté, c'est d'abord l'habeas corpus. C'est d'abord le fait, précisément, de pouvoir s'approprier son propre corps, c'est-à-dire condition minimale, à partir de laquelle on peut éventuellement aspirer à être libre et de plus en plus libre. Bon, évidemment, si on n'a pas au moins ça, on est dans ben, on est dans l'esclavage. C'est-à-dire, on est dans la soumission absolue. Alors, bien sûr, que son corps soit la propriété du maître, ça veut dire que son espace soit la propriété du maître. Le premier espace que chaque être humain appréhende, bon, c'est son propre corps. Hein? Alors, tout le monde le sait, on a tous fait l'expérience de ça, puisqu'on a tous été enfants. Non, c'est la première condition d'une libre disposition d'un espace, c'est la libre disposition de son corps. Et pour être libre dans un espace libre, il faut d'abord s'approprier son corps. Alors, de ce point de vue-là, et là aussi, l'expérience que chacun d'entre nous peut faire, et qui a été particulièrement étudiée tout au long, en tous les cas, du XXe siècle, mais bien avant aussi, dans la psychologie de l'enfant, dans tous les travaux qu'on a faits sur la perception, sur l'appréhension, en particulier, bon, je cite Vallon, Merleau-Ponty, mais beaucoup d'autres, en France. Eh bien, l'espace, c'est l'extension de soi. Bon. Et soi, qui est, bon, soi, justement, moi, soi, etc., qui, comme le disait Nietzsche, je, moi, etc., sont des simples notions grammaticales. Pour que c'est une réalité, il faut que ça s'inscrive dans l'espace. Alors, évidemment, cette expérience, encore une fois, qui est l'expérience de l'humanité depuis qu'elle existe. Il suffit de lire, par exemple, Lévi-Strauss et de tout ce qu'il a fait sur l'analyse des groupes qu'il a rencontrés, dits, et des groupes dits qui éventuellement n'avaient eu très peu de rapport avec la civilisation. Bon. Donc, depuis toujours, c'est ça. Mais disons qu'il y a un courant philosophique qui l'a particulièrement mis en lumière et en exergue, c'est la phénoménologie, c'est-à-dire essentiellement Husserl, et surtout Heidegger. Puisque comme vous savez, Heidegger, dans son premier livre, Être et temps, il ne parle pas de l'être, il ne parle pas de l'homme, il parle du Dasein. Dasein, qui est absolument intraduisible. Enfin, si on voulait le traduire mot à mot, ça veut dire quoi? Da, ça veut dire là, et Sein, ça veut dire être. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours là. Être, c'est être là. On est dans l'espace. Et même, c'est inexact ce que je dis. Parce qu'on n'est pas dans l'espace, on est l'espace. Alors, entre parenthèses, on pourra avoir une discussion sur la question écologique de l'environnement. Mais enfin, bon, c'est une autre question, mais qui est vraiment aussi... À savoir qu'on n'est pas environné par soi-disant un espace. Mais c'est plutôt le contraire. Il n'y a pas un extérieur, on n'est pas face à face à l'espace. L'espace n'est pas notre vis-à-vis. On est immergé, on est dedans. On est dedans au sens où on est ça. On est de la même façon que, disons, un poisson, quand il est dans l'eau, Il ne sait pas qu'il est dans l'eau. Il ne le sait que quand on le retire de l'eau et il meurt. Nous, à la limite, c'est comment entre guillemets, c'est naturel. C'est évident. Oui, mais c'est tellement évident que on s'en rend plus compte qu'on est Dasein. Mais comment on s'en rend compte qu'on est Dasein vraiment? C'est quand on en est privé. C'est quand on en est privé. Alors, qui est-ce qui est privé du Dasein? L'esclave, bien sûr. Le prisonnier. Celui qui n'a pas de place. Celui à qui on retire la place. C'est donc celui qui n'a pas de corps à lui. Donc celui qui n'est pas. Qui n'est pas. Être, c'est Dasein. Bon. Alors, si, précisément, on se rend compte de ça, on s'en rend compte, mais si on le... La question de s'en rendre compte, malheureusement, on s'en rend compte. Et surtout, encore une fois, on s'en rend compte quand on en est privé. Mais si on en tire les conséquences philosophico-politiques, qu'est-ce que ça a comme effet? Ben, ça a comme effet que, précisément, on ne peut plus considérer le fait de l'habitat, de l'habitation, comme quelque chose qui serait en plus. On serait, les êtres humains seraient, et en plus, ils auraient ou ils n'auraient pas un habitat. Ils existeraient, ils seraient, et entre autres, ils habiteraient. Alors, précisément, ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'habitation n'est pas un quelque chose, un surplus. Habiter n'est pas une qualité, entre autres. C'est l'essence même de l'existence humaine. Exister, c'est habiter. Et quand on est privé de cette capacité d'habiter, quand on en est privé, ou quand on est condamné, parce que c'est jamais soi qui décide de ça, hein. Quand on est obligé, quand on est condamné, quand on est forcé de survivre dans de l'inhabitable, qui malheureusement, évidemment, ça existe, des conditions telles que l'on survit plus ou moins longtemps dans de l'inhabitable, mais on survit dans des conditions, ça commence pas si...
Aux États-Unis et partout ailleurs où le capitalisme domine la société, c'est-à-dire où l'expropriation violente a dépossédé tous ceux qui, même pauvres, avaient accès à une forme d'appropriation de l'espace de leur vie, juste sous forme commune et non privée. Le verdict est implacable. Les sans-logis sont exclus de la qualité d'homme. Déchets, ils ne sont pas même esclaves. Ils sont de trop. C'est une résonance actuelle terrible.
Effectivement, c'est ce qui se passe en ce moment, mais ça se passe dès le début du capitalisme. C'est-à-dire, le capitalisme est fondé, comme Marx le dit dans Le Capital, justement, dans l'accumulation primitive du capital. Texte que je vous recommande, si vous ne l'avez pas lu, et je vous recommande de le relire si vous l'avez lu, parce que je trouve qu'il est d'une acuité et d'une actualité, d'une profondeur inégalée. Et Marx, donc, dans l'accumulation primitive du capital, détecte l'origine de l'accumulation et il détecte dans l'expropriation. Ben, je vais vous lire aussi là, je vais continuer simplement le texte précisément du Capital, je vais vous lire 3 minutes. Le donné économique, le réel, entre guillemets, dont traitent les économistes, a une origine, l'accumulation du capital. Mais c'est un secret. Pourquoi ce secret? Parce que dévoile Marx, alors ouvrez les guillemets, les méthodes de l'accumulation primitive sont tout ce qu'on voudra, hormis matière à idylle. C'est la conquête, l'asservissement, la rapine à main armée, la règle de la force brutale qui ont joué le grand rôle. En quoi consiste cette accumulation dont les méthodes sont tout sauf idylliques? La surprise, voire la stupeur, qui explique pourquoi l'origine de cette accumulation est un secret si jalousement gardé, car s'il était dévoilé, il réduirait à néant le principe sacré sur lequel repose la libre entreprise capitaliste, le caractère sacré de la propriété, c'est que l'origine de l'accumulation du capital n'est rien moins que l'expropriation des producteurs indépendants. Alors, je cite, ouvrez les guillemets. Au fond du système capitaliste, il y a donc la séparation radicale du producteur d'avec les moyens de production. Cette séparation se reproduit sur une échelle progressive dès que le système capitaliste est une fois établi. Mais comme celle-là forme la base de celui-ci, il ne saurait s'établir sans elle. Pour qu'il vienne au monde, c'est-à-dire le système capitaliste, pour qu'il vienne au monde, il faut donc que partiellement, au moins, les moyens de production aient déjà été arrachés sans phrase aux producteurs qui les employaient à réaliser leur propre travail. Marx ajoute, l'histoire de leur expropriation n'est pas matière à conjecture, elle est écrite dans les annales de l'humanité en lettres de sang et de feu indélébiles. Donc c'est tiré du Capital, le secret de l'accumulation primitive, livre 1, chapitre 26. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, le système capitaliste est fondé sur l'expropriation. Alors, l'expropriation, historiquement, c'est l'expropriation des paysans en Angleterre. Des petits paysans, des moyens paysans qui sont expulsés de leurs terres. Mais expulsés, c'est-à-dire que finalement sans aucune indemnité. Donc ils sont soit tués, soit ils deviennent des mendiants, etc., etc. Et en gros, c'est eux qui forment les premiers, ce qu'on va appeler le prolétariat dans les villes. Bon. Donc c'est l'expropriation, y compris de ce qu'on appelait la pâture commune, bon, et alors, ils sont expropriés de leurs moyens de production, mais ils sont expropriés de leur lieu d'habitation, bien sûr. C'est-à-dire que, bon, ils habitaient, même les gens qui étaient relativement pauvres, ceux qui n'étaient pas, évidemment, parce que c'était des paysans qui n'étaient pas des esclaves, bien sûr. Hein. Le capitalisme repose pas sur l'esclavage. Bon. Les paysans expropriés du début du capitalisme en Angleterre sont pas des, c'est pas des esclaves. Et c'est même pas des serfs, comme pouvait exister encore en France au XIIe siècle. Bon, évidemment pas comme les esclaves en Russie comme à la fin du XIXe siècle. Donc, Les paysans qui sont expropriés sont des, entre guillemets, des producteurs libres, qu'on exproprie, dont on exproprie les moyens de production, c'est-à-dire on leur retire leurs terres, et évidemment on leur retire leur espace. Et c'est-à-dire ils ne sont plus propriétaires de leur espace à tous les sens du terme. Et c'est précisément eux, une partie d'entre eux qui va partir parce qu'ils sont de trop. Et c'est eux les premiers qui vont aller peupler ce qui va devenir les États-Unis. C'est-à-dire c'est tous les expropriés de l'ancienne Europe qui sont les premiers émigrants qui vont venir aux États-Unis. Alors l'autre circuit, c'est évidemment l'esclavage. Et ça, c'est dans le sud des États-Unis. Bon, mais il ne faut pas confondre le nord, production capitaliste des États-Unis, avec le sud, qui est un système d'esclavage et aussi un système de latifundiste. Bon, le grand propriétaire, et ça, c'est le système que en glissant appelle l'arc des Caraïbes. Alors, ces expropriés, ils sont expropriés, y compris de leur vie. On les exproprie de leur vie, c'est-à-dire qu'ils sont de trop. La question en ce moment, comme vous devez le savoir, parce que c'est quand même vaguement dit dans un certain nombre de journaux, de revues en tous les cas, ce qu'on appelle aux États-Unis maintenant, il y a toute une école de sociologie relativement importante qui a étudié cette question-là de maintenant et qui, justement, a été obligé d'inventer cette expression horrible pour dire l'horrible de la situation, et ils appellent ça les hommes Kleenex. Bon, c'est-à-dire qu'on jette. C'est-à-dire, effectivement, ils ne sont pas des esclaves. Le capitalisme n'est pas fondé, en principe, sur l'esclavage. Comme le disait Marx, il est fondé sur le travailleur libre, qui librement fait son contrat, qui librement, entre guillemets, vend sa force de travail contre un salaire. Bon. Mais en particulier quand ils n'ont même plus de travail, bon, et quand ils n'ont plus de lieu, quand ils n'ont plus de lieu à eux, ils sont de trop. Alors, la question fondamentale, c'est que ce qui se passe, comme le remarque Marx, à l'origine de l'accumulation primitive du capital, c'est-à-dire que l'acte originaire, qui est l'acte de l'expropriation, eh bien, chaque fois, cet acte se reproduit. À chaque crise, ça recommence. Parce que l'accumulation primitive du capital a toujours à se refaire, plus ou moins. C'est pour ça aussi que le mot crise qu'on emploie, parce que, bon, pourquoi on emploie ce mot qui est un mot très ambigu, à la limite, on ne devrait pas dire crise, d'ailleurs, parce que c'est, entre guillemets, c'est un certain nombre d'économistes américains qui l'ont dit, d'ailleurs, c'est l'état normal du capitalisme. C'est pas la crise, c'est, il faut perpétuellement qu'il y ait cette quantité plus ou moins grande de en trop, de en dehors, pour que l'en dedans fonctionne. Il faut que perpétuellement il y ait de l'en dehors, ceux qui ne sont pas dedans, ceux qui sont sans place, ceux qui n'ont pas de place nulle part et qui aspirent évidemment à en avoir une. Il faut que perpétuellement il y ait cet afflux, il y ait cette pression pour qu'il y ait Pour qu'il y ait la capacité pour le capitalisme de s'auto-engendrer et de perpétuellement espérer avoir un profit maximum. Bon, vous connaissez aussi, et malheureusement, ce que l'on pensait être des rabâchages, des redites perpétuelles. Mais maintenant, c'est tellement voyant qu'on ne peut plus le nier. C'est qu'il y a, comme encore pour reprendre cette expression de Marx, cette immense armée de réserve. L'immense armée de réserve de ceux qui n'ont pas de travail, de ceux qui n'ont pas de place, et qui aspirent à en avoir une. Donc il y a cette immense armée de réserve qui fait pression sur ceux qui ont un peu, qui sont un peu dedans. Et cette armée de réserve fait pression justement pour que perpétuellement il y ait, on abaisse le coût du travail, comme on dit, et que fait pression sur la masse salariale. Bon, alors, vous savez, le problème de la délocalisation, etc., etc. Bon, parce qu'il y a précisément cette immense masse de en Chine, etc., mais il y a aussi dans nos pays à nous, il y a cette immense armée de réserve qui fait que, bon, ben, depuis très 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 longtemps, depuis 20 ans maintenant, on a calculé une disparité absolue entre le travail et le capital. Bon, mais c'est comme ça. Il n'y a pas à s'en indigner, à trouver que c'est... Bon, c'est structurellement comme ça. C'est-à-dire que structurellement, le capitalisme fonctionne sur l'expropriation. Le problème, c'est que maintenant, ce qui arrive maintenant, en plus de ce qui est arrivé avant, qui est le processus qui existe depuis au moins 5 siècles, l'expropriation, elle concerne l'entièreté de l'habité. C'est-à-dire que l'expropriation, elle est évidemment physique, sur la question de la place, d'être propriétaire de sa propre place, de la question de son propre habitat, mais c'est aussi la question d'être habité, d'être habité par autre chose que par soi-même. Et évidemment, c'est toute la transformation psychique que ça entraîne, et avec les effets que ça entraîne, les effets que ça entraîne, indépendamment du fait de la misère, au sens matériel du terme, c'est-à-dire que l'état de survie est de plus en plus aléatoire, donc la question de la pauvreté, de la misère est de plus en plus aiguë, mais la misère au sens dont... Par exemple, les situationnistes employaient ce terme. La misère en milieu étudiant, si vous vous souvenez, pour les gens qui ont un certain âge, de ce livre qui avait fait grand bruit. Et cette misère, entre autres, se manifeste, en tous les cas pour moi, par un processus d'enlaidissement du monde. Alors, là, il faut être assez précis. Quand je parle de l'enlaidissement du monde, je ne fais pas un jugement esthétique, au sens esthétique. Je ne dis pas par rapport à des canons de la beauté, au sens où l'esthétique a pu le faire, bien que nous soyons dans le lieu où précédemment ça s'est développé, bon, les écoles des beaux-arts, bien sûr. Mais ce n'est pas dans ce sens, bien sûr que ça existe aussi dans ce sens, mais ce n'est pas dans ce sens-là que j'entends enlaidissement du monde. J'entends enlaidissement du monde par ce que ce fait, précisément, que le capitalisme, structurellement, il détruit l'espace. Pourquoi il détruit l'espace ? Parce que Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut, d'un certain point de vue, irréaliser l'espace. Il faut presque annihiler l'espace. En tous les cas, il faut la rendre le moins présent possible. Et ça se figure et ça se concrétise par deux phénomènes très importants. Le premier, c'est évidemment qui a été longtemps vécu, peut-être à juste titre d'ailleurs, comme un progrès, c'est l'abolition des distances, l'abolition de la distinction de l'ici et du là-bas, du près et du loin, hein. En tous les cas, l'indistinction entre le près et là-bas, l'indifférenciation, et d'un certain point de vue, pas l'abolition, mais l'irréalisation du temps. Ce que Virilio, après d'autres, mais qui a produit cette formule percutante, le temps réel, c'est le temps de l'instantanéité, quoi. Donc, il n'y a plus d'historicité et il n'y a plus de distance. Alors, ça, c'est un phénomène qui avait été déjà remarqué par les grands artistes, en particulier Baudelaire. Ça fait longtemps. Baudelaire qui avait eu cette intuition formidable de la perte de plus en plus occasionnée par ce qu'il appelait la modernité, les temps modernes, la perte de l'expérience. Les êtres humains avaient de moins en moins de possibilités d'avoir et de transmettre une expérience. Expérience, ça veut dire quoi? Ça vient de où? Ça vient de expérire. Ça veut dire de sortir. Il y a le préfixe latin ex, ça veut dire hors de. Périrer, ça veut dire essayer. Bon, il y a une manière de sortir, de se sortir de l'habituel, quoi, du bon, et de faire en sorte que quelque chose vous arrive, et que aussi cette expression, qui est à mon avis très porteuse de sens, quelque chose ait lieu. Pour que il y ait du lieu, il faut que quelque chose ait lieu. Bon. Et précisément, c'est aussi quelqu'un que j'aime bien, Marc Auger, qui a écrit un livre que peut-être vous connaissez, en tous les cas vous connaissez le titre, Les non-lieux. Les non-lieux. La construction, l'édification des non-lieux. Vous savez que nous sommes environnés maintenant, si j'ose dire, là c'est le cas de le dire, nous sommes encerclés de plus en plus par des non-lieux. Oui, voilà. Alors, lui, les non-lieux, c'est des zones de transit, tout ce qui fait qu'on transite. Bon, alors, et en plus. Et encore, à la limite, il peut y avoir quelque chose encore de presque quelque chose qui peut exister comme une espèce de saveur encore dans les gares, dans les lieux de transit, les gares, les aéroports, etc. Mais qui parcourt en ce moment la France, mais enfin tous les autres pays d'ailleurs, et voit ce qui se passe en ce moment dans les entrées et les sorties, on ne sait même plus d'ailleurs si c'est des entrées ou des sorties des villes, avec ces espèces de zones, on appelle ça des zones. Vous savez que c'est un terme militaire, ça. Aller sur zone, on dit. Aller sur zone. Aller sur zone, ça veut dire que c'est une espèce de... Bon, c'est une zone. À un moment donné, on appelait ça la zone. Alors la zone, c'était l'entre-deux, c'était ce qui était plus tout à fait le faubourg, et ce qui n'était pas encore la ville, c'était la zone, où il y avait des marlous, des loulous, etc., etc. Mais maintenant, la zone. Bon, alors il y a des zones marchandes, etc., etc. Il y a un architecte qui vient d'écrire un livre qui est assez intéressant, qui s'appelle « La ville franchisée ». Voilà. De plus en plus, il y a du franchisé, au sens de des séries de magasins ou d'hôtels, etc., franchisés, bon, qui sont de plus en plus horribles et qui enlaidissent. Et alors, bref, qu'est-ce qui se passe? Et j'en reviens peut-être au début. Eh bien, il se passe que l'espace, en tant que tel, est aboli et on lui substitue l'immobilier. Ça veut dire quoi, l'immobilier? L'immobilier, ça veut dire que ce qui était dans la culture pendant très longtemps, la culture architecturale en tous les cas, était conçu comme un site, c'est-à-dire comme un lieu dans lequel il était loisible, il était recommandé, au contraire, il était interdit, ou en plus des cas déconseillé, de construire un site qui était précisément plus ou moins accueillant, hospitalier à l'habitat. C'est-à-dire un site qui était éventuellement pouvant être habité, donc habitable. Et vous savez peut-être à quel point, par exemple, dans la tradition grecque, antique, les anciens Grecs, c'était une question décisive. Et que choisir le site avant de fonder une ville, c'était absolument décisif, parce que si le site avait été mal choisi, il était fort possible et presque inéductable que la cité ainsi construite sur un site qui n'était pas adéquat et qui n'était pas habitable, qui se passe dans cette cité la stasis, c'est-à-dire la guerre civile, la violence. Cette recommandation des Grecs qui a pu sembler à un moment donné, quand je dis a pu sembler à un moment donné, complètement hors de question, quand a été conçu et véritablement mis en industrialisation l'urbanisme, quand l'urbanisme a été conçu comme la technique la plus rationnelle, j'emploie les termes qui étaient employés à l'époque, technique la plus rationnelle d'aménagement du territoire, c'est-à-dire en fait de contrôle du territoire. Quand l'urbanisme est devenu, la pensée dominante en architecture, et surtout quand elle a submergé toutes les villes, en tous les cas de nos contrées, Europe, aux États-Unis aussi, bien sûr, quand l'urbanisme est devenu absolument dominante, il y a quelque chose qui a été perdu de l'urbanité, c'est-à-dire justement de la qualité de vivre une certaine hospitalité dans une ville qui ne soit pas uniquement une agglomération. Le terme agglomération est symptomatique de ce qu'il veut dire. Une agglomération, c'est quoi? C'est quelque chose qui est... C'est un quantum, c'est un espèce de quantum de population, en termes de quantum, qu'on agglomère comme un agglomérat. Évidemment, quand on conçoit l'habitat humain de cette façon, il n'est pas étonnant qu'au bout d'un certain temps, ça se passe mal. Parce que les êtres humains, ils n'habitent pas comme des agglomérés. Quand on les fait vivre dans des agglomérations, comme des agglomérés, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a un autre terme aussi qui en dit beaucoup plus que ceux qui ont inventé ce terme. Ils ne s'en rendaient pas compte, évidemment. Ceux qui ont inventé le terme d'agglomération, ils ne s'en rendaient pas compte de ça. Enfin, ils ne s'en rendaient pas compte. Ce n'est pas une excuse, hein. Au contraire. C'est une circonstance aggravante. Ils auraient dû s'en rendre compte. C'est comme les grands ensembles, comme on dit. Bon, eh ben, non seulement dans un grand ensemble, on n'est pas ensemble, pas du tout. On est les uns sur les autres, ce qui est tout à fait différent. Pour être ensemble, il faut être aussi séparés. Hein. Eh bien, dans les grands ensembles, évidemment, à un moment donné, il y a le fait qu'on n'est pas quelque chose dans quelque chose qui peut se partager de commun. On est les uns sur les autres et l'intimité n'est pas respectée avec tous les problèmes du bruit, etc., 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 que vous connaissez. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend l'habitat, comme une matière, comme une marchandise. D'ailleurs, vous savez comment on parle des maisons maintenant dans l'immobilier. On dit c'est un produit. C'est un bon produit. Achetez ce bon produit. Parce que si j'ai acheté ce bon produit, vous aurez moins d'impôts à payer, voilà, etc. Et vous faites un bon calcul. Donc, le simple fait que on substitue au mot maison le mot produit, c'est symptomatique. C'est symptomatique du fait que, encore une fois, on traite ce qui est soi comme, non, même pas une chose, mais comme une marchandise. Ce qui est le plus intime de soi, ce qui est soi-même, comme une marchandise. Alors, il n'est pas étonnant, dans ces conditions, qu'à force d'être traité comme ça, eh bien, soit on en devient une de marchandise, hein, soit on éclate et on fait éclater des choses. Alors, je ne vais pas continuer, parce que bon, je pourrais en parler encore 3 heures, mais simplement je vais finir en vous lisant un peu de Bord, tiré de Im Girum Imus Nocte et Consumi Simibur Igni. Très beau texte sur, entre autres, sur ce qu'était la ville quand elle était encore Paris. C'était à Paris, une ville qui était alors si belle que bien des gens ont préféré y être pauvres plutôt que riches n'importe où ailleurs. Qui pourrait à présent, qu'il n'en reste rien, comprendre cela, hormis ceux qui se souviennent de cette gloire? Qui d'autre pourrait savoir les fatigues et les plaisirs que nous avons connus dans ces lieux où tout est devenu si mauvais, si mauvais? Paris, alors, dans les limites de ses 20 arrondissements, ne dormait jamais tout entier et permettait à la débauche de changer 3 fois de quartier dans chaque nuit. On n'en avait pas encore chassé et dispersé les habitants. Il y restait un peuple qui avait 10 fois barricadé ses rues et mis en fuite des rois. C'était un peuple qui ne se payait pas d'image. On n'aurait pas osé, quand il vivait dans sa ville, lui faire manger ou lui faire boire ce que la chimie de substitution n'avait pas encore osé inventer. Les maisons n'étaient pas désertes dans le centre ou revendues à des spectateurs de cinéma qui sont nés ailleurs sous d'autres poutres apparentes. La marchandise moderne n'était pas encore venue nous montrer tout ce que l'on peut faire d'une rue. Personne, à cause des urbanistes, n'était obligé d'aller dormir au loin. On n'avait pas encore vu, par la faute du gouvernement, le ciel s'obscurcir et le beau temps disparaître, et la fausse brume de la pollution couvrir en permanence la circulation mécanique des choses dans cette vallée de la désolation. Les arbres n'étaient pas morts étouffés, et les étoiles n'avaient pas été éteintes par le progrès de l'aliénation. Quant à ce que nous avons fait, de Bord et ses copains, comment pourrait-on évaluer le résultat présent ? Nous traversons maintenant ce paysage dévasté par la guerre qu'une société livre contre elle-même, contre ses propres possibilités. L'enlaidissement de tout était sans doute le prix inévitable du conflit. C'est parce que l'ennemi a poussé si loin ses erreurs que nous avons commencé à gagner. »